Et nous accueillons Marc pour débuter cette libre antenne. Bonsoir Marc.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir Marc. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous Marc?
Ben moi je vous appelle de près du Havre.
Oui.
Moi j'ai 54 ans.
Oui.
Moi je suis divorcé, mais on a un fils en commun qui est schizophrène.
D'accord.
Hein, voilà. Et bon, actuellement il est à l'HP, en hôpital psychiatrique. Lui il a 29 ans. Et si vous voulez, c'est tous les deux ans, à peu près, qu'il y retourne. Il a été diagnostiqué à l'âge de 15 ans. Et. Il a été en institut après 15 ans. Et depuis, voilà, c'est des allers-retours. Enfin, c'est tous les deux ans, à peu près, suite à arrêt de traitement et puis autre chose. Et là, il est hospitalisé à l'hôpital psychiatrique au Havre. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'on est, je pense qu'on est mal un peu, on est mal aiguillé, on est mal épaulé. L'après-hôpital, parce que c'est pas une fin en soi, l'hôpital psychiatrique. Et moi, ce que je voudrais, c'est lui trouver un lieu de vie, quoi.
Après. Oui, parce que cette schizophrénie, elle est à quel niveau, en fait? Elle se manifeste comment? Parce qu'il y a plusieurs formes de schizophrénie. Ouais. Arrive-t-il?
Si vous voulez, c'est bon, quand il prend son traitement, il est...
Bon, il est stabilisé.
Il est stabilisé. Mm-hmm. Sans traitement, non. Sans traitement, c'est la folie, quoi.
Ouais.
Je suis obligé de l'hospitaliser sous la demande d'un tiers.
Ouais. Comment ça a démarré, en fait, Marc? Est-ce qu'il
ça,
y a eu
ça a démarré. Ça a démarré à l'âge de 12 ans. Enfin, il a été déscolarisé à l'âge de 12 ans. Et si vous voulez, c'était quelqu'un de brillant. C'est d'ailleurs quelqu'un de brillant, à mon avis. C'était quelqu'un de... Bon, il a parlé de bonheur, et puis bon, il jouait du violon, des choses comme ça, quoi.
Ah oui, il était...
Il était précoce. Moi, je pense qu'il était précoce. Et puis à l'âge de 12 ans, il s'entendait plus avec les enfants de son âge à l'école. Donc, on a été... appelé par l'école, quoi. Et puis donc on était obligé de le changer d'école, et puis ça a récidivé, donc on l'a rechangé d'école, et puis ça a monté comme ça, et puis à l'âge de 15 ans, on l'a fait suivre par le CMP.
Oui.
Si vous voulez, le psychiatre, moi je m'en souviens très bien, lui a posé des questions, et puis il a donné des questions qui correspondaient à quelqu'un de psychotique, de schizophrène.
Oui. Oui.
Et donc là, il nous a dit, on va mettre un traitement en route. Alors, j'ai dit quoi, un traitement? Moi, je pensais que c'était juste une crise d'adolescence, quoi, à l'époque.
Oui, non, oui. Il entend des voix dans sa tête?
Oui, il entend des voix, il est paranoïaque. Oui, il entend des voix. Et très, très paranoïaque quand il n'a plus de traitement.
Alors, lorsqu'il prend son traitement, tout va bien?
Ouais, tout va bien. Ça va. Honnêtement, ça va. Bon, ça va.
Alors, pourquoi ne le prend-il pas en permanence, en fait, traitement?
Le dernier épisode, c'est pas parce qu'elle a pas pris son traitement, parce qu'elle avait un traitement en retard. C'est un surdosage de cannabis.
Voilà.
Il fume du cannabis. Bon.
Voilà. Mais on en est encore rendu au même, même chose avec ce cannabis qui est...
Le cannabis de merde, voilà.
Voilà.
Chez des gens comme ça, parce que bon, il y a des gens, ils peuvent fumer du cannabis, ça ne leur fera rien.
Qui le supporte très bien, ouais.
Je pensais qu'il avait
absolument déconseillé pour lui, complètement déconseillé, complètement. Et il ne veut pas arrêter, ça.
Non.
Ça, il ne se rend pas compte que ça lui fait du mal.
Non.
C'est dingue.
Et il a que ça. C'est sa seule, à mon avis, je pense que le cannabis, c'est son seul, seul plaisir, je pense, parce qu'il n'a rien d'autre. Donc, je pense que c'est ça, quoi. Donc, Voilà, il se rend pas compte, et puis lui, ça l'emmène peut-être dans des... Moi, il m'a toujours dit que quand il fumait du cannabis, il s'évade, quoi. Enfin, il pense plus, il pense peut-être plus à rien, je sais pas, mais toujours est-il que ça fait des gros dégâts.
Oui.
Et voilà, là, j'étais obligé de l'hospitaliser en début d'année, parce que bon, là, je pouvais plus, ça pouvait plus durer comme ça, quoi. C'est pas possible. Parce que, si vous voulez, moi, c'est moi qui le. Il vit chez moi, et puis, si vous voulez, il pensait que le soir, il y avait du monde dans le placard, des choses comme ça, quoi. Pardon. Et puis voilà, il était affolé, et puis tout. C'était un mode parano, là. Donc là, j'ai pas pu, là, j'ai appelé le. Déjà, je me suis renseigné voir s'il avait pris son traitement, parce que je me demandais s'il est. Il avait été à son injection, il avait fait son injection, mais bon, le cannabis a pris le dessus sur ça, et puis. Et donc, ça faisait plus d'effet, quoi. Donc, je l'ai hospitalisé, il est à l'HP au Havre.
Oui.
Mais bon, là, il faut trouver une solution, parce que bon, à l'HP, ils ne nous donnent pas de solution. Moi, j'ai demandé quelque chose. Et bon, mais ils ont peut-être pas les moyens, hein, ça, ils sont là pour soigner les gens. Moi, je voulais, il a une orientation ESAT, centre d'aide par le travail. Moi, je voulais que, si vous voulez, pendant que l'hospitalisation de Pierre à l'hôpital, il aille le matin, par exemple, il parte le matin pour faire un stage en ESAT, puisqu'il y en a sur la région havraise. Bon, j'ai demandé il y a 2 ans, je lui ai redemandé dernièrement au psychiatre, on n'est pas entendu, on n'est pas entendu. On n'est pas entendu du tout. Et ça fait
Qu'entendez-vous par là? Vous n'êtes pas entendu.
Non, non, non. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là pour soigner. Et puis après,
Oui, ils ne
voilà.
s'en occupent pas.
Ils sont là pour soigner. Et puis, mais après, c'est peut-être leur rôle. Moi, mais je voudrais, moi, c'est avoir, si vous voulez, c'est avoir une suite. Une suite. Parce que c'est pas la fin en soi. Hein. C'est pas la fin en soi d'être hospitalisé en HP. Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont, entre guillemets, récupérables. Et lui, je pense qu'il est récupérable. Mais lui, je pense qu'il a besoin d'être motivé parce que, il a tendance à se laisser un peu aller, là, tout de suite, là, en plus. C'est-à-dire que, si vous voulez, comme ils savent son souci avec le cannabis, ils lui ont dit, si tu veux sortir en permission, quand tu reviendras le lundi, quand tu viendras à la fin de la journée, tu feras un screening. Pour connaître si t'as fumé. Et lui, donc, lui, il a dit, non, 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 moi, non, non. Si, c'est une forte tête quand même. Hein. Donc, non, 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 moi, non, je préfère rester là, puis voilà. Donc, je sortirai pas. Donc, il se met vous vous rendez compte un peu, il est capable de, pour une sortie avec moi ou sa mère, hein, de rester là-bas, quoi.
J'ai reçu un SMS au 739-21 qui me dit: Bonsoir, je suis éduc. Mon dernier poste avant d'avoir des enfants était justement en SAVS. Je suivais et accompagnais 12 personnes schizophrènes. Il existe de vraies solutions hors hôpital et hors centre à domicile. J'ai laissé mon numéro, je suppose, mais je ne l'ai pas, son numéro. Donc, alors, Florian là, et il va vous donner ce numéro. Hein. C'est dommage que d'ailleurs cette personne ne veuille pas intervenir à l'antenne. Ça aurait été très intéressant, même pour les autres familles qui écoutent. Alors, je lui lance un appel. Ça serait peut-être bien qu'on l'ait en direct,
Ça
cet
serait bien, oui.
éducateur.
Ça serait bien, oui. Pour savoir un peu ce qui peut être mis en place. Et puis, moi, je pense que, enfin, moi, à mon avis, le souci, c'est que, à chaque sortie, lui ou d'autres, parce que moi je parle aussi pour d'autres, hein, parce que il n'y a pas que mon enfant, mais ils sont laissés un peu à eux-mêmes, quoi. Donc y a pas de suivi, quoi. Y a pas de, on les oblige pas à aller à des rendez-vous. En fin de compte, voilà, ils touchent, je vais vous dire, ils touchent une allocation adulte handicapé, point barre, et puis boum, ils sont dans la nature, un traitement, puis voilà. Et puis voilà.
Alors que moi, j'ai
Et
déjà entendu parler vraiment d'après. Hein.
oui.
Il y a des appartements thérapeutiques, je sais. Il y
Oui.
a même des maisons qui sont, enfin, où ils peuvent passer la journée entre, oui. avec des personnes qui s'occupent de leur, oui. De leur faire faire des choses, de leur proposer des ateliers, vous voyez, des choses à faire. Je suis certain hein, que ça existe. Oui. Donc, oui. je pense que les SMS vont continuer à tomber, mais je suis certain qu'il y a des choses qui existent. On va prendre Agathe au téléphone. D'accord. Bonsoir Agathe, qui est éducatrice et qui nous a laissé ce SMS. Bonsoir Agathe.
Bonsoir Olivier. Bonsoir Marc.
Merci pour votre appel. Ah bah, je vous laisse tous les deux. Je vous laisse tous les deux.
Oui. Bonsoir.
Agathe, vous avez entendu ce que Marc a dit.
Mais justement, je suis étonnée de après l'hospitalisation en hôpital psychiatrique a duré combien de temps, grosso modo?
Là, il est depuis début janvier là.
Depuis le début, oui. Donc moi, je suis étonnée qu'on vous ait pas aiguillé en fait. Hein. Vous êtes dans une grande ville
Il est au Havre, l'hospice du Havre.
Ouais, mais quand même, parce que
c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire que depuis 2013, de toute façon c'est simple, je connais les années. Il a été hospitalisé en 2013, en 2016, en 2018, en 2021. Oui. Et à chaque fois c'est 6 à 7 mois, parce que.
Et à aucun moment personne ne vous a jamais. D'accord.
Jamais.
Hein. Parce qu'il existe, hein, et même dans les petites villes, hein, des centres qui s'appellent des SAVS. Hein, c'est des. Services d'accompagnement à la vie sociale. Hein, voilà. Et il en existe partout en France. Hein, c'est comme une franchise, SAVS, si vous voulez.
Ça, je connais un peu, oui. Je connais un peu le SAVS, oui.
Et ça, même s'il n'y en a pas directement près de chez vous, normalement, on aurait pu au moins vous le proposer. C'est un service qui est justement proposé en sortie de longue hospitalisation pour éviter d'aller dans des centres spécialisés, etc. Parce qu'effectivement, moi, les 12 personnes que j'accompagnais, avec un traitement adapté, avec un suivi socio-éducatif de justement du SAVS, mais vivre à domicile, c'est possible. Enfin, je tombe de ma chaise. Moi. Comme vous ne l'avez jamais dit, enfin, c'est...
Qu'est-ce que vous parlez comme vivre à domicile, ça veut dire? Qu'il aille un appartement et puis que...
C'est ce que je comprends, c'est ce que vous sembliez dire, mis à part l'hospitalisation, vous n'avez pas envie qu'il y passe sa vie. Enfin, et puis c'est normal.
Bah non, parce que...
Mais évidemment.
Non, de toute façon...
c'est légitime, oui.
Et je trouve... Alors, de son côté aussi, lui, si vous voulez, il a du mal aussi à coopérer, je trouve, quand même. Hein. C'est quelqu'un qui a un fort caractère.
Mais c'est normal, il est dans un univers uniquement médical, si je comprends bien.
Hein. Oui.
Depuis des années, ces deux seuls univers, c'est l'hôpital et vous. C'est bien ce que je comprends.
Ben oui, c'est ça.
Bien, au bout d'un moment, ras-le-bol, quoi.
Ras-le-bol.
C'est que des blouses blanches.
Et d'ailleurs, c'est vrai que... Ben oui, il les appelle toujours les blouses blanches. Mais bon, si vous voulez, lui, il s'en cantonne de ça maintenant. Parce que je vois tout de suite, là... sa mère, on va lui porter des choses... Mais là, il pouvait avoir une sortie là samedi, et parce que il fume du cannabis, quoi. Bon.
Franchement, je comprends, moi. Quand il n'y a plus d'optique, ça ressemble à la prison, là, en fait, ce qu'on entend. Vous voyez, il n'y a même pas de lumière au bout du tunnel, il n'y a aucun avenir possible. On lui parle que de traitement, en gros, enfin... Donc au bout d'un moment, c'est bon, ça.
Et moi, j'avais soumis quelque chose, c'est-à-dire qu'il a une orientation ESAT. Mais bon, tout de suite. Alors, est-ce qu'il serait capable d'aller en ESAT? Je suis pas trop sûr. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il passe par d'autres choses avant, parce que bon, ça fait déjà.
D'autres choses,
un accompagnement éducatif, ouais, à mon avis, pour le remettre. Bah oui, parce que là, c'est. Il va avoir 30 ans cette année et ça fait plus d'une dizaine d'années.
Et en plus, le traitement, vous ne vous semblez pas adapté, si j'ai bien compris. Hein.
Oui, le traitement, c'est-à-dire que le souci, c'est qu'il y a 2 ans, quand il est sorti de l'HP, il avait un traitement, hein, il avait Risperdal, Copixol, et puis il a été repris en main par une psychiatre. qui a enlevé le traitement pour y remettre juste un traitement voilà, un traitement tous les 3 mois, très vite là, je crois. Enfin, un traitement sous.
J'imagine que la psychiatre était aussi au sein de l'hôpital dont il sortait.
Non, c'est CMP, oui, il se côtoie. Mais bon, pour avoir juste un traitement, mais à mon avis, il n'était peut-être pas assez fort, le traitement.
De toute façon, s'il a vraiment à ce point besoin de fumer, c'est que le traitement, enfin, je ne suis pas tout bib, hein, mais c'est qu'il y a quelque chose qui est mal dosé, quoi.
Oui, bon, enfin, si,
avec un traitement adapté, si la vie normale est possible.
Agathe, s'il a envie de fumer, malgré tout... Ouais, ça, c'est pas bon pour lui. En même temps,
d'accord,
oui.
Hein. Ah oui, non, mais je suis complètement d'accord.
C'est très mauvais pour lui. Donc,
c'est déclencheur. Hein,
bah oui.
De
oui.
crise et de période de.
Alors, si vous voulez, on peut le comprendre. Mais bon, il faut surtout essayer, je trouve, de lui faire comprendre que c'est très mauvais pour lui. Très mauvais pour lui.
Oui, je ne disais pas que c'était... voilà, je n'étais pas en train de dire que c'était bien. Hein. Mais c'est juste... Enfin, je veux dire que justement, c'est signe qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Il y a quelque chose qui ne roule pas, quoi, là.
Oui, c'est-à-dire qu'il n'a pas de but dans la vie.
Oui, il n'a plus de vie.
Il n'a pas de but dans la vie.
Quel âge a-t-il aujourd'hui ?
Ben là, il a 29 ans. Il va avoir 30 ans au mois de novembre.
C'est terrifiant, quoi. Je dis, en plus de la maladie, d'avoir aucun projet, c'est...
Pour être honnête aussi, c'était que lui, il ne va pas non plus au-devant des projets. Hein. Entre guillemets, il ne va pas au-devant. Non.
Est-ce que vous pensez que si on lui proposait quelque chose d'adapté, etc., hein, dans le meilleur des mondes, hein, imaginons, vous pensez qu'il serait en mesure, qu'il aurait envie de suivre ? Ou vous pensez réfractaire au point de...
Il faudrait qu'on lui propose, oui, après tout, oui. Pourquoi pas ?
Il suffit peu de choses, quoi.
C'est ça, il faudrait trouver les bons arguments, et puis peut-être que...
Parce que des fois, c'est la bonne rencontre au bon moment. Parce
que c'est en plus, c'est dommage. C'est un gamin qui est intelligent. Et puis,
non, puis de toute façon, c'est dommage. Enfin, c'est votre fils, point. Enfin,
c'est mon fils.
Vous avez un interlocuteur à l'hôpital
Référent. Mais Agathe, qu'est-ce qu'on propose à ces jeunes gens exactement ? Vous nous disiez que vous aviez passé, vous suiviez accompagné 12 personnes schizophrènes. Les vraies solutions dont vous parliez dans votre SMS ?
Alors, à partir du moment où on déclenche un accompagnement dans un SAVS, on a un éducateur référent. On suit, alors, selon les SAVS, hein, voilà, grosso modo, moi j'avais 10 à 12 personnes à l'année que je suivais, que je voyais, grosso modo, une à deux fois par semaine. Très très souvent c'est à domicile, on vérifie que tout va bien d'un point de vue administratif, est-ce que voilà, loyer, facture, etc. sont payés, vraiment voilà, d'un point de vue administratif. Ensuite d'un point de vue professionnel, quand c'est possible, parce que moi tous ne bossaient pas, c'était pas possible, et ensuite à côté, est-ce que les liens familiaux sont maintenus, est-ce que les liens avec les voisins, les potes se passent bien, est-ce que c'est vraiment un accompagnement de vie. Accompagnement à la vie sociale. Ça porte bien son nom, hein, pour permettre à cette personne cette toute petite pichenette qui permet de vivre chez soi et pas en centre, pas en hôpital psychiatrique, pas voilà, et de mener des projets. Alors voilà, pour certains, ça va être partir en vacances pendant une semaine au mois de juillet. Pour un autre, ça va être trouver un boulot adapté à son handicap, etc. Enfin, c'est vraiment selon les personnes que j'accompagnais, les projets sont complètement différents. Mais en tout cas, ça rend la vie possible chez soi avec autre chose que l'hôpital psychiatrique, les médocs, enfin voilà quoi.
Le médoc, il en aura toujours besoin. Hein, parce que,
je ne dis pas sans médoc, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire, la vie avec juste les médocs et les blouses blanches, c'est terminé. Voilà. On envisage qu'une vie autrement puisse être possible. Mais évidemment, c'est avec traitement. De toute façon, dès qu'ils arrêtent un traitement, ça se voit tout de suite. Hein. Ça se voit tout de suite. Donc du coup, oui, voilà, enfin, Olivier, pour répondre à votre question, il n'y a rien extraordinaire, il n'y a rien de magique, mais c'est simplement de pouvoir leur permettre d'avoir un chez eux et de mener une vie comme tout à chacun. Enfin,
de toute façon, déjà, pour avoir travaillé plusieurs fois sur la question en faisant des films sur ça, le malade qui n'accepte pas de garder son traitement,
oui,
c'est franchement de là que ça part, comme vous dites. Ouais.
Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ensuite, tout dépend comment c'est présenté, comment c'est amené, comment c'est accompagné sur le long terme aussi. Enfin...
Ouais, il faut lui donner envie de faire quelque chose.
J'ai une psychose hallucinatoire et travaille avec traitement. Et j'ai un domicile seul. Et les traitements aident, mais fatiguent aussi. Il a besoin de stimulation, vous dit donc cet auditeur. Groupe de parole, accompagnement à la vie sociale. Ça existe et c'est super, nous dit-il.
Ça change tout.
Il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent vous être proposées. Oui. Est-ce que vous vous êtes rapproché de la MDPH, Marc, de Seine-Maritime?
Oui, parce qu'il a une notification exacte, lui, déjà. Sans ne pas le travail. Exact. Ah. Mais oui.
Mais après, vous pensez qu'il ne serait pas capable de bosser hors de ce milieu-là?
Mon fils, il a le, entre guillemets, le cul entre deux chaises. Je crois. Oui, c'est vrai. S'il serait bien pris en entreprise, il pourrait très bien être un bon salarié. Et il pourrait être un très bon salarié en ESAT. Mais il a un très très fort caractère, et c'est-à-dire qu'il ne se laisse pas faire. Moi j'ai été éducateur, mais j'étais moniteur d'atelier 10 ans dans un centre d'aide à le travail il y a 30 ans.
Ah, donc vous connaissez. Oui.
Je connais le sujet. Je suis autre chose maintenant. Mais des forts caractères, on a du mal à pas manipuler, les manager. Alors que des gens qui sont un peu plus faibles de caractère, on en fait ce qu'on en veut. Lui, c'est quelqu'un qui est très très fort en caractère. C'est
parce qu'on lui dit tant mieux, non?
Oui, mais c'est bien et puis c'est pas bien. Parce que il faut trouver vraiment les bons arguments pour qu'il fasse quelque chose. Et moi, il vit avec moi. Enfin bon, depuis 5 ans, je suis séparé. Il vit avec moi. Il est resté dans la maison familiale. Même moi, qui est très proche de lui, je n'arrive pas, quoi.
Vous êtes le papa.
Oui, je suis le papa, oui, mais j'arrive pas à. Oui, mais il faut être dedans pour comprendre le truc, quoi. Et même là, à l'hôpital dernièrement, mon ex-femme m'a expliqué un truc, c'est que à l'hôpital tout de suite, les infirmiers lui ont dit heureusement qu'on n'en a pas trois comme ça, parce que il est très très prenant, très très prenant. C'est pas quelqu'un de méchant, mais il est. Comment?
Ils vous ont dit ça à lui? Ils ont dit ça à lui? Ils vous ont dit ça à vous? J'ai pas compris.
Oui, ils m'ont dit ça à mon ex-femme, quoi, qui était lui amené les affaires. Mais oui, mais bon, au moins, ça veut dire ce que ça veut dire aussi. Non, mais c'est vrai. Après, il faut aussi entendre des choses. On n'est pas là pour entendre que des choses. Bon, il n'est pas agressif ni méchant, mais ils ont du mal parce que il est, si vous voulez, c'est un rebelle, quoi. C'est quelqu'un. Il est très 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 il est un très fort caractère. Hein, de toute façon, c'est.
Qu'est-ce qu'il a comme centre d'intérêt? Si je peux me permettre.
Il avait des centres d'intérêt dans le temps, il faisait du modélisme,
Parce que c'est ça qu'il faudrait à faire.
Il a 30 ans maintenant.
Tout de suite, là, je crois qu'on n'en est même plus au modélisme, honnêtement.
Dans l'immédiat. Mais je veux dire, c'est peut-être que sur le long terme.
Il est tout le temps bouclé, visiblement, c'est ça le problème.
Oui, voilà, c'est ça. Et puis quand il n'est plus à l'hôpital psychiatrique, il fréquente aussi bien il fréquente des gens comme lui, quoi. Hein. On est arrivé, il a 30 ans, et puis on tourne autour.
D'ailleurs, il est où quand il n'est pas à l'hôpital? Il est chez vous?
Il est chez moi, oui.
Il est chez vous, d'accord.
Pour vous, ça doit être difficile en plus pour vous.
Oui, par moments, c'est très dur. Ouais, c'est très dur. Mmh. C'est très dur. Bah, il m'a éclaté.
Moi, dans un premier temps, ce que je fais, c'est de contacter le référent dont vous parliez avant et de demander un suivi en SAV, une place en SAVS. Hein. C'est vraiment la toute première chose que je ferai.
Alors, oui, mais alors, admettons, le souci, c'est, enfin, là, à la limite, avec un traitant, il serait sortant. Hein. Bon, oui. Mais moi, j'en ai un peu, je vais vous dire, franchement, je ne parlais pas comme ça encore il y a 6 mois, mais là, j'en ai un peu marre, quoi, parce que bon...
Usé.
Ah ben, bien sûr, oui, jusqu'à la corde.
Usé. Parce que moi, je ne dors plus, apparemment.
Vous m'étonnez.
Et puis, au début janvier, il m'a éclaté de la porte de sa chambre pour rentrer, parce qu'il ne pouvait pas l'ouvrir. Il m'a défoncé la porte de sa chambre. Et là, enfin bref... c'est des hallucinations, c'est de la paranoïa. J'ose même plus tourner le dos, moi. En crise, non, mais il est pas méchant comme ça. Mais en crise, moi. Le traitement, là, ils ont arrêté le traitement, ils en ont remis un autre en route là.
On va si vous voulez bien tous les deux marquer une petite pause parce que c'est l'info qui arrive sur Europe 1. On va durant ces quelques minutes, durant l'info, réfléchir encore. Vous qui nous écoutez au 739-21, vous pouvez aussi nous proposer si vous en connaissez des solutions. Et puis on conclut après, d'accord ?
D'accord.
À tout de suite, Agathe et Marc. Merci. Pour l'instant, nous sommes avec Marc qui nous expose sa problématique avec son fils de 29 ans, souffrant de schizophrénie et n'étant plus tout à fait gérable. On entend un père... usé, fatigué, avec peu de solutions pour qu'une fois que son fils sort d'hospitalisation, eh bien, il puisse avoir une vie à peu près normale, chose qui est impossible visiblement pour l'instant. Et puis nous sommes avec Agathe qui est éducatrice et qui s'est occupée de 12 malades de schizophrénie et qui échange donc avec Marc sur les solutions possibles pour ce garçon. Agathe, vous disiez donc il y avait ces solutions à travers, rappelez-moi quoi ?
Les SAVS, services d'accueil à la vie sociale. Oui. Du coup, j'ai regardé pendant les infos dans mon annuaire du social. Si je suis à la page, il y en a un SAVS du Havre, rue Général Chanvy.
Ça, Marc, vous n'en avez jamais entendu parler ? On ne vous a jamais proposé ça ?
Oui, j'en ai entendu parler des SAVS, oui, tout à fait. Mais lui, il n'était pas très... C'est-à-dire que il est toujours plein d'intentions pour quand il est là-bas, il va sortir, il va faire plein de choses, mais quand il ressort, il ne fait rien, quoi. Donc, si on ne le pousse pas, j'ai l'impression qu'il faut toujours quelqu'un derrière lui, de toute façon. Il n'est pas capable de se prendre en main, de toute façon, c'est pas possible. Parce qu'il a 29 ans et
Il porte déjà sa maladie, hein. C'est lourd.
Bien sûr, il a la maladie. Et puis, comme c'est quelqu'un qui a jamais trop fait, qui a pas fait grand chose, donc il se laisse un peu aller, quoi. Enfin. Un peu quand même, quoi. Donc, si on ne pousse pas...
Parce que ça peut pas être...
Je pense que à la sortie, il n'y a personne pour l'accompagner, c'est rebelote, de toute façon. C'est tous les 2 ans, tous les 1 an, tous les 2 ans, ça va retourner. Et il ne fera jamais rien de sa vie, alors que je pense qu'il est capable de faire quelque chose de sa vie. Enfin, mon avis.
Là, de toute façon, les modalités d'admission pour un SAVS, il faut de toute façon passer par la MDPH. Oui. Ça, je peux vous envoyer le lien si vous voulez, si vous avez un email ou par texto, comme vous voulez, et vous les contactez. Si l'hôpital psychiatrique ne le fait pas, tant pis. Je veux dire, vous passez directement par la MDPH qui fait une demande. Alors des fois c'est très rapide, surtout si vous signifiez que ça commence à être problématique et dangereux pour vous, pour lui, chez vous, ça vaudrait le coup d'essayer. Je veux dire, au pire du pire, il se passe rien. Enfin, vous avez tout à gagner, je trouve, hein, à essayer. Enfin, moi en tout cas, ce serait vraiment mon conseil, c'est de faire une demande pour un SAVS.
Oui, SAVS, et après aussi. qu'il ait une activité, il ne va pas rester sans rien faire.
Mais c'est le but du SAVS.
Ah,
c'est justement de l'accompagner dans la vie au quotidien.
Oui, oui, c'est le SAVS déjà... est tout à fait adapté à ça. Hein. C'est vraiment fait pour ça, comme
oui,
les
SAVS, par exemple, la Ligue Havraise, sur la région Havraise ou à Bolbec, l'IMS Bolbec, ont des services d'accompagnement. Je connais un peu, mais voilà. Après, il faudrait que je mette un truc, quelque chose en route, quoi.
Et puis que... Si la rencontre fonctionne, pardon.
Alors, comment doit-il faire, Agathe, Marc, concrètement?
Alors, s'il ne le sent pas par rapport à l'hôpital psychiatrique, effectivement, qu'il laisse tomber, il passe directement par la MDPH, il la contacte, ils font, c'est un formulaire à remplir, 2-3 documents à donner, vous faites la demande d'admission, quelquefois, ça prend 3 semaines, 1 mois, parce qu'on sait qu'il y a urgence pour telle et telle raison, des fois, ça prend un peu plus de temps, effectivement, c'est pour ça, c'est important de signifier que là, ça commence à devenir dangereux pour vous,
urgent.
Pour lui, voilà, enfin, urgent.
C'est surtout urgent, dangereux, c'est surtout urgent pour que, pour la suite, quoi, parce que bon, pour la suite, quoi.
Et donc, voilà, à partir du moment où il y a admission, on lui fait rencontrer l'éduc qui sera référent. En général, il n'y en a qu'un. On a un éduc référent. Et puis ensuite, on convient, selon ses envies, selon ce qu'il aime faire, etc., selon ses possibilités par rapport à la maladie, éventuellement prise de logement, puis éventuellement bosser ou pas. Si ce n'est pas le moment, ce n'est pas grave. De toute façon, tout est fait en fonction de la personne, de ses possibilités, de ses capacités et de ce qu'elle a envie de faire. Donc, il aime bien, je ne sais plus ce que vous disiez, le modélisme. Il existe, là, vraiment, je schématise, mais il existe des endroits où on peut en faire. Ensuite, il y a aussi des groupes de parole qui sont... Alors, chez vous, je ne sais pas, moi, je suis dans l'Est, mais il existe des groupes de parole pour les personnes schizophrènes et les familles de personnes souffrant de schizophrénie qui sont vachement bien, vraiment vachement bien. Alors, vous me dites qu'il est réfractaire, mais tout dépend. On n'est pas réfractaire à vie, quoi. C'est pas un caractère d'être réfractaire.
Non, il faut qu'il arrive à...
Parce que c'est mal plaisanté,
Il faut qu'il arrive à accrocher à une activité, en tout cas quelque chose qu'on lui propose.
Oui.
Des fois, une rencontre fait beaucoup de choses.
Oui. Ouais. Je l'aurais bien vu, par exemple, un lieu de vie, pour commencer, par exemple, dans une ferme thérapeutique, quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas, moi, j'imagine quelque chose pour le sociabiliser et puis progressivement. Qui travaille autour de ça, puis je sais pas,
et lui,
je pensais à quelque chose comme
Agathe,
ça.
Agathe, je vous remercie, mais on a Nicolas qui nous appelle maintenant.
Oui,
donc,
oui.
Mille merci à vous, Agathe, et on va prendre Nicolas qui souhaite donner son expérience.
Si vous voulez mon numéro, n'hésitez pas à m'appeler.
On va le passer à Marc. On va le passer à Marc. Mille merci, Agathe.
D'accord.
Bonne soirée.
Au revoir
Olivier. Au revoir, Marc.
Alors, Marc, on a Nicolas qui appelle pour vous et qui vous écoute depuis une demi-heure. Et il nous dit que la situation de votre fils lui rappelle son quotidien. Bonsoir, Nicolas.
Bonsoir, Olivier. Bonsoir, Marc.
Bonsoir, Nicolas.
Alors, vous écoutiez Marc, Nicolas, et vous nous avez appelé pour intervenir sur la libre antenne. Dites-nous.
Alors voilà, donc c'était principalement déjà pour témoigner du fait. Vous parliez dans le premier quart d'heure, voire les premières 20 minutes de l'émission, et de votre appel, Marc, que vous êtes apparemment désespéré qu'il n'y ait aucune solution que je dirais alternative, entre guillemets. Alors bon, ça c'est très, c'est un peu flou dit comme ça. Voilà, mais justement, là où ça m'a parlé immédiatement et je me suis dit que ça serait intéressant d'appeler ce soir, c'est que, j'ai également connu il y a plusieurs années en arrière l'hôpital psychiatrique, à plusieurs reprises d'ailleurs, que ce soit d'ailleurs dans le privé ou dans le public, bon, ça, c'est pas trop le sujet. Mais
Pour schizophrénie, Nicolas?
Alors, en partie. En partie, oui, parce que vu le traitement que je prenais, et puis je suis pas expert psychiatre, mais il y avait un fond à tendance schizophrénique, effectivement. Peut-être, je suis pas là pour me comparer au fils de Marc, mais Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que oui, il y avait un fonds comme ça et il y avait plusieurs troubles associés, en fait.
D'accord. Et qu'est-ce qu'on vous a proposé alors ?
Et alors, en fait, ce qu'on m'a proposé, c'est là où je pensais qu'il était intéressant d'intervenir, c'est que c'est donc quand j'étais en HP, donc en HP sous contrainte, en HDT, et ben c'est le chef de service lui-même, donc de l'unité où j'étais hospitalisé, qui s'est, bon alors, ça a quand même pris un mois avant que lui me propose ça, mais au bout d'un mois que j'étais hospitalisé, donc complètement, il m'a proposé, et bien justement, donc à l'époque j'étais en Savoie, du côté de Chambéry, donc à l'hôpital psychiatrique de Chambéry, et justement ce qui m'a amené à Besançon, donc voilà, je vis à Besançon actuellement, ce qui m'a amené à Besançon, c'était l'existence d'un centre, alors je tairai son nom pour l'instant, bon, parce que je sais qu'ils ne font pas trop de publicité sur les médias, maintenant je sais qu'il est connu de quelques psychiatres, bon, ça pourrait être intéressant de dire lequel il s'agit hors antenne, voilà, il s'agit d'une toute petite structure, avec 12 participants maximum.
Oui.
Mais voilà, mais ce... Et alors, en fait, donc cette structure, je vais vous la décrire rapidement. Donc, en fait, il s'agit d'un lieu de soins. Alors, c'est vrai que Agathe, qui est intervenue tout à l'heure, parlait du SAVS, et donc là, qui est plus dans le côté lieu de vie. Bon, je... Non, là, l'établissement dont je parle, c'est... dont j'ai pu bénéficier pendant 3 ans, c'est un lieu de soins, donc une petite structure qui, alors bon, je pourrais vous la détailler peut-être plus en détail. Et en fait, c'est, là, bon, je vais schématiser pour que ça parle au plus grand nombre. Il s'agit d'une petite structure qui, bon, qui a quand même des infirmiers, des psychologues, et bien sûr un médecin directeur. Mais là, vraiment, ce que je veux dire, c'est qu'à la fois, il y a un côté, c'est un peu le prolongement de l'hôpital psychiatrique. Mais d'un autre côté, c'est pas du tout ça.
Et on vous propose des activités ? On vous propose des activités ? On fait quoi ?
Eh ben alors, c'est là tout l'intérêt pour moi de cette structure, c'est qu'il y a quelques activités en interne de la structure, on va dire en gros, très schématiquement, la moitié du temps, et l'autre moitié, il y a la possibilité de sortir dans la ville, dans la cité, comme on dit des fois dans le jargon technique, pour donc là sortir, où là c'est des sorties libres, donc alors bien sûr avec un impératif de retour en fin d'après-midi globalement, mais voilà, c'est, enfin voilà, je voulais parler de ça parce que c'est un lieu où il y a la continuité des soins, pardon, nécessitant le traitement médicamenteux, c'est vrai, mais maintenant tout l'intérêt que j'ai ressenti et qui m'a été très bénéfique de cette structure, c'est que donc, bien sûr, il y a un tronc commun de psychiatrie comme en HP, mais ce que je veux dire à Marc, c'est que ça n'a rien de coercitif. Ça n'a vraiment rien de coercitif. J'ai presque envie de dire le jour et la nuit entre... Mais bon, ça serait un peu trop simpliste de résumer.
Vous savez ce qu'on va faire, en fait, Nicolas ? On va vous brancher tous les deux hors antenne. Et je trouve que, en tout cas, entre Agathe et vous, Nicolas, on voit, Marc, qu'il y a des solutions. Et qu'il faut tout de même que vous... Ou peut-être que, comme Nicolas nous le disait, c'est quand même le chef de service qui l'a orienté là-dessus. Donc, je trouve quand même que le référent auquel vous avez affaire dans l'hôpital psychiatrique où est interné votre fils ne fait pas beaucoup d'efforts, parce que c'est quand même à eux, hein, c'est quand même à eux de vous orienter.
Nous, on n'a jamais été orientés. On n'a jamais été orienté. Voilà, non.
Alors après, ce que je tiens à dire, peut-être quand même, alors bon, bien évidemment, je suis loin de connaître tous les hôpitaux psychiatriques de France. J'ai, moi, personnellement, estimé avoir eu de la chance, mais je ne désespère pas que si ça a pu être le cas pour moi à Chambéry, je pense que dans plein de villes de France, ça peut également être le cas. Mais que oui, le chef de... Donc, qui était aussi mon médecin psychiatre le temps de mon hospitalisation en HP... voilà, ça venait de lui-même. Au bout d'un mois, il y a eu un entretien dans son bureau et il m'a dit bon voilà Nicolas, bon c'est vrai que malheureusement la raison de mon hospitalisation c'était aussi une situation à risque assez profonde qui m'avait conduit là. Mais le truc, c'est que quand même, il avait, bon en un mois, il avait eu le temps de voir qui j'étais un petit peu, comment je réagissais au sein du service, etc. Au bout d'un mois, il m'a dit bon Nicolas, vous n'avez pas grand-chose à faire dans un hôpital psychiatrique. Cependant, on va peut-être quand même vous garder encore peut-être une semaine ou deux. Bon, en réalité, ça a été un petit peu plus. Mais ce que je veux vous dire, Marc, c'est que voilà, assez vite. Alors bon, je ne connais pas votre fils et j'espère ne pas être décourageant d'avance. Enfin bon, je je m'estime chanceux, mais enfin, je pense pas que ce soit bien approprié de dire ça, parce que moi, je pense que chaque, c'est aussi ce que j'ai appris dans le centre à Besançon, c'est que même des participants, enfin, des patients, disons des patients pour ce soir, mais dans la petite structure, ils les appellent les participants, on en reparlerait peut-être ultérieurement, même les participants qui sont très, très en difficulté, comme visiblement ça semble être le cas pour votre fils, même ceux-là peuvent avoir leur chance aussi, voilà.
Bon,
ça,
c'est quand même très encourageant, en tout cas, Marc.
Ouais.
Vous ne raccrochez pas tous les deux, vous allez hors antenne échanger vos numéros de téléphone, comme ça vous pourrez continuer à converser. Merci pour votre appel sur l'antenne d'Europe 1 ce soir. Merci Nicolas, merci Marc, et puis je vous souhaite vraiment
merci beaucoup,
Marc. Hein. Okay, et mille merci Nicolas. Au revoir.
Je vous en prie. Au revoir.